Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai vraiment pas envie de parler, c'est l'avortement. Allez, c'est parti. Podcast du pasteur, et je suis votre hôte, pasteur Tito Mouchebele. Ce podcast qui a pour but d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde tellement, tellement gris et tellement, tellement sombre. Ok, aujourd'hui, c'est un épisode spécial, j'espère que vous allez bien. Je suis malade à la maison, en commençant par les news du pasteur. Je suis malade à la maison, hier j'ai eu un peu de... Je sais pas, j'ai eu un vertige bizarre et j'ai passé une nuit assez difficile, donc j'ai pris congé au boulot pour rester un peu... me reposer. Mais pendant cette nuit, j'étais en train de réfléchir sur cette question et je me suis dit que j'allais enregistrer un podcast sur le sujet. Donc voilà, l'avortement. Donc je vous ai donné mes news, à part ça tout va bien. On peut passer directement à l'autre rubrique qui est Spotlight. Et la personne dont j'aimerais parler aujourd'hui s'appelle Aurélien. Aurélien, c'est un créateur de contenu, c'est aussi un rappeur, un chanteur qui est très actif sur YouTube et sur TikTok. C'est un peu le curateur de la musique chrétienne urbaine pour l'instant. Il fait en fait ce que je fais avec Spotlight, c'est ce qu'il fait dans ses différents outlets créatifs. Il parle beaucoup des artistes, des nouveaux artistes. Il parle beaucoup de ce qui se fait en musique. En rap chrétien, en R&B, en afro, et il a des playlists un peu partout. Sur TikTok, il met en avant plein d'artistes. C'est toujours le premier à commenter sur les nouveaux clips qui viennent de sortir. Très intéressant, allez le suivre si vous voulez découvrir plein de nouvelles musiques. Il fait aussi des vidéos où il parle de certains sujets, un peu comme ce que je vais faire maintenant. Très intéressant, c'est vraiment... Et puis c'est un gars très cool. On discute un peu parfois sur Twitter et tout. Franchement, il est très chouette. Alors allez le suivre, même pas pour lui, allez le suivre pour votre propre bien, parce que si vous voulez découvrir de la nouvelle musique, je pense pas qu'il y ait un meilleur endroit, il y a quelqu'un qui fasse du meilleur travail que lui sur le net en ce qui concerne la musique chrétienne. Donc allez voir Aurélien. Let's go. Je sais pas, j'ai un gros problème aujourd'hui. Déjà, le volume de mon micro est super bas. Je sais pas pourquoi. Tout est super bas. En plus, je suis un peu malade et c'est un sujet dont j'ai pas envie de parler, mais je pense que c'est important d'en parler. Alors, priez pour moi. C'est pas facile aujourd'hui. On va parler de l'avortement. Donc, pourquoi j'en parle maintenant? En Amérique... Il s'est passé quelque chose récemment, c'est que un document a été leaked, je sais pas comment on dit ça, divulgué, voilà, qui dit que la Cour suprême a l'intention de renverser l'arrêt Roe versus Wade. Roe versus Wade, c'est l'arrêt en gros qui avait légalisé l'avortement aux États-Unis. Il faut comprendre que les États-Unis, c'est un système juridique qu'on appelle le common law. C'est le système qui est d'application dans la plupart des anciens pays, des anciennes colonies britanniques. Et le common law, c'est un droit qui est basé sur la jurisprudence, très fort sur la jurisprudence, donc sur les décisions judiciaires. Donc, en gros, quand une décision judiciaire est prise, elle établit un précédent. Donc, ça veut dire que, donc telle fois, lors de telle affaire, les tribunaux ont réagi de telle manière. Donc, ça veut dire qu'on peut réagir de telle manière. Ça veut dire qu'on doit réagir de telle manière. Donc, c'est la loi du précédent. Donc, les tribunaux ont un pouvoir très fort en termes de création de la loi. Alors que dans nos systèmes de droit francophone, droit français, droit romain, Le tribunal n'a pas un grand pouvoir de création de la loi, c'est le législateur qui en a. Je trouve personnellement que le système de common law, il est très gamin, il est très immature, comme beaucoup de choses chez nos amis anglo-saxons, avec tout l'amour que j'ai. Ça donne beaucoup trop de pouvoir aux juges, et ils sont censés juger, ils sont pas censés créer la loi. En tout cas, peut-être c'est juste mon background de droit romain et de droit francophone, parce que j'ai fait quand même deux années de droit à l'université avant de passer à la crimino, qui parle. Et donc, la Cour suprême, qui est maintenant aux mains des conservateurs depuis l'ère de Trump, va sans doute renverser cette loi et donc enlever ce privilège de l'avortement légal sur tout le pays. Et ce sera en fait aux États de décider ce qu'ils veulent faire. Donc ça a créé un gros tollé aux États-Unis. Certains sont contents, certains sont dépités. Personnellement, je suis quelqu'un qui suis, je dirais, 99,9999% contre l'avortement. Mais j'ai envie quand même qu'on en discute. J'ai envie qu'on en discute. Encore une fois, c'est mes positions et ouais, il y a beaucoup de, il y a plein de trucs qu'on peut dire là-dessus, hein. Beaucoup de choses. Mais je vais d'abord démonter quelques arguments qui pour moi n'ont aucun sens. Quelques arguments qui pour moi n'ont aucun sens. Mais soit dit en passant, je pense pas que c'est un problème qui se résout à force d'arguments. Je pense pas que c'est la rationalité, que c'est la logique qui va régler cette question de l'avortement, parce que je ne pense pas que ça a à voir avec de la logique. C'est pas un problème logique. Anyway, désolé, j'ai vraiment du mal à avancer aujourd'hui. En fait, alors que je préparais ce podcast, j'ai fait quelques recherches et vous voyez, je trouve qu'on tombe très vite dans la bassesse et les profondeurs noires et sombres de l'humanité lorsqu'on fait des recherches sur un sujet comme cela. Les secrets cachés, les profondeurs cachées et que je trouve personnellement méprisables de l'humanité, de la société actuelle. Et voilà, c'est plein de choses qui me dégoûtent, mais voilà. On y va. Donc, quelques arguments qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Le premier, c'est on ne doit pas dire aux femmes quoi faire avec leur corps. On ne doit pas dire aux femmes quoi faire avec leur corps. Encore une fois, du point de vue purement argumentatif, ça n'a aucun sens. Du point de vue émotionnel, du point de vue historique, à cause de ce que les femmes ont subi, notamment les femmes noires qui ont été expérimentées par des docteurs, etc. Ah ouais, je comprends. Je comprends le sentiment. Je comprends la méfiance envers le gouvernement. Je comprends la méfiance envers les docteurs. Je comprends la méfiance envers les hommes qui essayent d'imposer leur logique, qui essayent d'imposer leur domination sur les femmes en passant par leur corps. Yeah. Oui, je comprends le sentiment. Mais l'argument, dans le cadre d'une discussion légale, ouais. Pourquoi je dis que ça n'a pas de sens ? On est en train de sortir de la crise Covid, où on a été confinés. On nous a dit quoi faire de nos corps. Ne faites pas ci, n'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas, vous aurez des problèmes. Vous irez en prison, vous aurez des penalties, de l'argent à payer. Et toute la question du vaccin. Vous devez prendre cette substance et la mettre dans votre corps. Ou sinon. Une grosse partie de la loi pénale, des lois pénales, concerne ce qu'on doit faire de nos corps. Ou ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire de nos corps. C'est ça que la loi... Oh, j'ai réussi à régler mon problème de volume. I'm back, baby. All right. Ouais, c'est un peu à ça que servent les gouvernements. C'est pour ça que certains sont des libertariens ou des anarchistes qui considèrent qu'on devrait avoir un gouvernement le plus petit possible et qui nous empêcherait de... Allez, qui rentrerait moins dans notre quotidien, dans notre vie. C'est pour ça que certains veulent quitter des organisations telles que l'Union européenne qui gèrent beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas dire aux femmes quoi faire de leur corps, mais regardez par exemple le cas des drogues. Les drogues, c'est le gouvernement qui te dit telle substance, tu ne peux pas la faire entrer dans ton corps, tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la faire entrer dans ton corps. Les ceintures de sécurité, tu es dans ta voiture, dans ton espace privé, et on te dit que non, tu dois mettre cet appareil sur ton corps, ou quoi qu'on va dire que c'est un espace public, la voiture, hein, je sais, il y a eu des discussions là-dessus, mais voilà, tu dois porter cet appareil, sinon tu es en infraction. C'est ça que les gouvernements font, c'est dire aux gens quoi faire de leur corps. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est discutable. Et personnellement aussi, plus le temps avance, plus je suis quand même pour un petit gouvernement. Et plus je réalise, le mal que peut faire un gouvernement qui est trop impliqué dans la gestion du corps des gens. Et effectivement, comme j'ai dit au début, je conçois vraiment que les gouvernements essayent vraiment d'imposer de plus en plus leur non pas de plus en plus spécialement, mais veulent imposer leur domination sur les femmes. Et historiquement, il y a eu plein de trucs qui ont été faits aux femmes par rapport à ça. Et que ce soit les gouvernements ou bien les religions, les penseurs. Ouh là là, mon cerveau a du mal à avancer. Notamment toute la question de la contraception, où on essaie vraiment d'imposer ça aux femmes plutôt qu'aux hommes. Quoique, et je sais que certains vont m'insulter, vont dire « mais quelle ligne !» Mesdames, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre à l'heure actuelle, dans le monde actuel. Parfois, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on vit dans un monde de bisounours. Et autant les mêmes personnes veulent s'en prendre au droit, autant les mêmes personnes prennent comme raisonnement de départ les fictions que le droit établit. Je dis ça parce qu'en termes de contraception, comprenez qu'un homme peut te mettre enceinte et fuir. Il peut fuir et te laisse avec un bébé. Et c'est pour ça que c'est pas que les femmes ont la responsabilité. Théoriquement, les hommes devraient avoir autant de responsabilités, voire plus, vu que c'est un peu eux qui initient la chose. Quoique, dans un monde de consentement, en réalité, c'est la femme qui initie la chose. Then again, est-ce qu'on est vraiment dans un monde de consentement? Vous voyez, c'est pour ça que je parle de les fictions de la loi, les fictions de la philosophie qu'on aimerait avoir et la triste réalité, la sombre réalité même des choses. La sombre réalité, c'est que les hommes, on est des monstres. Nous sommes des monstres, nous avons été des monstres depuis le début de l'humanité. Tous les mythes, toutes les histoires, tous les livres, on est des monstres. Et vous devez vous protéger de nous qui sommes des monstres. Et la loi essaie de vous protéger de nous qui sommes des monstres. Mais je veux dire, les prisons sont remplies à 80% d'hommes. Hein? L'armée, c'est les hommes. On veut aller se battre, tuer des gens pour... je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On est des êtres un peu monstrueux. Voilà. Tout ça pour dire que ouais, les gouvernements imposent des choses sur le corps des gens. Et un truc par rapport à l'avortement aussi qu'il faut quand même prendre en compte. Hein. Ah, c'est un petit détail, mais ça joue quand même. C'est pas que... Dans ce cas, c'est pas le gouvernement qui veut essayer d'insérer quelque chose. C'est pas le gouvernement qui veut que vous fassiez quelque chose. C'est le gouvernement qui veut vous empêcher de faire quelque chose. Et c'est un petit détail, mais je trouve que ça compte quand même. Deuxièmement, on ne doit pas... Un autre argument, hein, on ne doit pas imposer aux autres notre volonté. Okay, on ne peut pas imposer nos vues religieuses aux autres, on ne peut pas imposer notre philosophie, nos conceptions aux autres. Encore une fois, je trouve ça absurde. C'est tout ce que fait le gouvernement. C'est à ça que sert le processus démocratique. C'est pour ça qu'on a des partis, qu'on a un parlement, parce que les gens ont des volontés, ils ont des philosophies, ils ont des conceptions qu'ils veulent essayer d'imposer dans toute la société en utilisant le processus démocratique. Dans le cas de Roe versus Wade, c'est la Cour suprême des États-Unis. Toutes les étapes de la loi ont été respectées. Tu ne peux pas dire à la fin, parce que ça ne te plaît pas, tu ne peux pas dire « Oh non, on ne peut pas imposer aux autres ben, ». Si, c'est pour ça qu'on a des parlements, c'est pour ça qu'on vote, c'est ça la démocratie. Je ne comprends pas cet argument, en fait. Et là, je rejoins un peu mes frères de la Manosphere, Red Pill Community, si vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez pas, vous connaissez pas. Et mes gens un peu conservateurs qui disent que, ouais, à l'heure actuelle, il y a un problème de responsabilité des femmes et de responsabilité d'une nouvelle génération qui sont comme des bébés, en fait. Une fois que t'as pas ce que tu veux, c'est « Mais non, on peut pas, parce que je suis pas content. » Mais c'est bizarre. C'est ça la vie en société, c'est ça les gouvernements. Encore une fois, je comprends le sentiment. Tu n'as pas envie qu'on t'impose des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais c'est ça, je sais pas, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Et là, j'insiste d'abord sur le processus démocratique. La discussion peut vraiment avoir lieu. Premièrement, est-ce que le processus est vraiment démocratique. Personnellement, je ne crois pas très fort dans les démocraties. Je crois que c'est... On s'est un peu overhype nous-mêmes, les humains, quand on a dit « Ouais, non, c'est la démocratie. » Non, ce n'est pas vraiment la démocratie. C'est, hein, c'est moins dictature qu'autre chose, mais... Et qu'il y a certains éléments dans les processus démocratiques qui sont louches, comme, encore une fois, comme en Amérique, le fait que c'est le président qui nomme plus ou moins des membres de comment s'appelle l'histoire, là ? La Cour suprême. Le fait que ce soit le président qui nomme les membres de la Cour suprême, le fait que les membres de la Cour suprême soient là ad vitam, hein, tant que tu meurs pas, on te remplace pas, ouais, bon, hein, bof, bof, pas hyper démocratique, hein. Mais, comme on dit en latin, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, c'est comme ça le processus. Bah, changez le processus démocratique s'il vous plaît pas. Bon, je dis ça comme si c'est simple, c'est pas simple. Encore une fois, je comprends le sentiment, mais je sais pas, c'est ça que font les gouvernements, c'est ça que font les États, c'est ça que font les parlements, c'est ça la loi. C'est des trucs pas faciles qu'on n'aimerait pas faire, mais notre père gouvernement les gère à notre place. Donc ça, c'est deux arguments vraiment que je trouve absolument nonsensical. Pour moi, ils n'ont pas de sens parce que c'est vraiment ça que fait le gouvernement. Mais je comprends le sentiment et je comprends qu'on peut avoir des discussions à ce sujet-là. Comment rendre les choses meilleures ? Est-ce qu'il n'y a pas un passé historique par rapport à tel type de législation, par rapport à tel type de personnes qui sont plus affectées par les législations que d'autres personnes ? Vous voyez ? Par exemple, dans ce podcast, je vais vous balancer... je suis très sérieux en fait. Je rigole, mais je suis très sérieux. Je vais vous balancer au fur et à mesure des types de personnes qui pour moi devraient aller en prison. Tu mets une femme enceinte, tu te barres. Prison. On te balance en prison. Voilà. Vous voulez... Parce que en fait, pour moi, toutes les discussions sur l'avortement, ça demande beaucoup de subtilité. C'est pas, oui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas. Non. Il y a des cas, il y a plein de choses qui se passent. Et je pense qu'il y a plein de problèmes qu'on doit régler avant d'avoir cette discussion sur l'avortement. La question de la paternité, la question de... Tu fais un enfant à quelqu'un et tu fouilles ? Ouais, je crois qu'on devrait... On devrait, bon, outre, il y a des lois qui existent, hein, mais je pense qu'on devrait pouvoir en faire plus. Mettre plus de pression sur les hommes pour gérer leur semence. Ouais, je crois vraiment. On devrait aussi mettre plus de pression sur les mères, somehow, pour gérer à qui elles ouvrent leur corps. Parce que tu fais un enfant avec un idiot. Hein ? Quelqu'un qui est genre, hein, vraiment un idiot. Quelqu'un qui a déjà 6 enfants avec 6 femmes, et toi tu vas lui faire un enfant. Je sais pas. Then again, il y a la question que je me pose depuis quelques années, c'est pourquoi Dieu a rendu la procréation si facile ? Ça devrait être plus difficile. Et c'est là où j'ai beaucoup d'humilité. Je me dis, il faut faire confiance à Dieu quand même. Parce que si c'était moi, ce serait chaud. Et un truc aussi qu'on va quand même aborder dans ce podcast, c'est l'idée d'eugénisme. Le fait qu'on aimerait pouvoir décider qui produit des enfants, qui se reproduit. Vous voyez ce que j'ai commencé à faire là ? Je me suis engagé dans une voie qui se termine très mal. Très mal, très 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 mal. Non, je crois que telle personne ne devrait pas, telle personne pourrait. Regarde avec qui tu veux faire un enfant. Ça là ! Vous voyez, quand j'ai commencé à parler, je suis sûr que certains commençaient à se dire « Ah, mais c'est vrai. » Ne faites gaffe, faites très attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ce genre de réflexion. Mais c'est une voie dans laquelle on s'engage et qui a pour résultat des horreurs. Mais on va reparler. Et le troisième raisonnement qui, pour moi, est vraiment nonsensical, c'est le fait que les fœtus ne sont pas en vie. Que tant que tu ne sors pas du corps de la mère, tu n'es pas en vie. Demandez à... Allez, arrêtons. Arrêtons. Certains disent qu'ils ne sont pas sentient, c'est qu'ils n'ont pas de conscience. Vous savez quoi ? À la limite, la discussion sur la conscience d'un bébé de 1 mois, d'un fœtus de 1 mois, de 2 mois, je ne suis pas scientifique. C'est discutable. Quoique voilà, disons que c'est discutable. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas conscients ? Mais est-ce qu'ils sont vivants ? Pas vivant. C'est autre chose. Et moi, c'est aussi même cette discussion sur la vie, la conscience, pas la conscience, c'est toujours bizarre. En fait, ce qui est bizarre actuellement dans les discussions, et surtout quand vous voyez en Amérique, c'est tellement... Les camps sont tellement opposés, c'est que vous allez voir des personnes vont argumenter pour une chose dans un cas et pour autre chose dans un autre cas. Par exemple, les conservateurs, quand il s'agit les chrétiens, les conservateurs, quand il s'agit de l'avortement, c'est non, on doit protéger les vies. On doit protéger les vies humaines. Alors les noirs, oui, Black Lives Matter. Non, vous ne comptez pas. Ok, donc alors payons le healthcare, la sécurité sociale en termes de la couverture médicale pour tout le monde. Non, on ne peut pas. Mais les bébés doivent naître et mourir pauvres. Oui, c'est très bizarre. La même chose, les gens, les démocrates, les gens de la gauche, les progressistes.
Non, un bébé n'est pas en vie. Laisse mon corps.
Et l'année passée, quand les gens étaient là, ouais, on ne veut pas se faire vacciner, c'était eux qui étaient là.
Non, fais-toi vacciner.
C'est diabolique, c'est démoniaque. Il y a un esprit. Encore une fois, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir ça. Il y a un esprit qui est sur l'humanité, là, un esprit de conflit, de division. C'est incroyable. Démoniaque. Les fœtus ne sont pas en vie. Bro, ils sont en vie. D'accord ? C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et acceptez que ce que vous voulez, c'est tuer des bébés. Acceptez que vous voulez tuer des bébés. Parce que l'argument de « oui, c'est mon corps », c'est pas seulement ton corps. C'est aussi un enfant qui fait partie de toi, mais qui à la fois ne fait plus tellement partie de toi. Encore une fois, certains vont dire « oui, mais pour les femmes qui se font violer ». Ça, je comptais en parler plus tard, mais j'en parle maintenant. Un des problèmes qu'il y a dans tout ça, c'est des gens qui veulent prendre la vie des gens, des gens qui veulent prendre les expériences de certains et en prendre comme argument. J'ai très rarement vu des personnes violées venir parler d'avortement. J'ai vu hier ou avant-hier sur Twitter une femme qui disait qu'à 12 ans, elle avait été abusée par son père, je crois, et par ses oncles. Elle était tombée enceinte. C'était des relations incestueuses. Et elle a dû donner naissance aux enfants, etc., etc. Et qu'elle aurait voulu pouvoir avorter. C'est vrai, j'ai vu ça. Mais c'est un truc que je trouve très bizarre, des gens qui viennent parler, parler de... Non, mais les femmes qui se font avorter. Laissez les femmes qui se font avorter parler pour elles-mêmes, en fait. Si elles n'ont rien dit, ne venez pas prendre leur vie comme des exemples théoriques. Et dans le cas de cette dame dont je parlais, qui a 12 ans, était abusée par son père et ses oncles, est-ce que la solution, c'est... Enfin, OK. Une fois qu'elle a eu l'enfant, une fois qu'elle était enceinte à 12 ans, je ne vais même pas parler de ça. Parce que... Faites ce que vous voulez d'un certain... Non, c'est pas faites ce que vous voulez. Parce que vous voyez, toute la loi pénale, c'est le gouvernement qui dit, vous ne pouvez pas faire ça. Telle chose, tu ne peux pas faire. Telle personne, vous ne pouvez pas y toucher. Vous voyez. Donc l'idée... Ouais, j'ai failli réagir comme... Franchement... L'idée de faites ce que vous voulez, je suis désolé. Il n'y a pas de faites ce que vous voulez. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Tu ne peux pas décider que telle personne... Que ce soit les humains, que ce soit les animaux. Par exemple, toutes les lois sur la bestialité, le fait d'avoir des relations sexuelles avec les animaux. Dans la plupart des pays, pendant longtemps, il n'y avait pas de loi là-dessus. Parce qu'on considérait que les animaux n'ont pas d'âme, donc faites ce que vous voulez. Et maintenant, il y a des lois. Quoique, dans la Bible, déjà, c'était interdit, sur les temps passants. Mais c'est dans les États modernes qu'il n'y avait pas de loi. Maintenant, il y a des lois, parce qu'on dit okay, d'accord, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est une créature. Tu ne peux pas faire ce que tu veux à une créature qui est là. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec... On ne condamne pas tes penchants, on condamne ce que tu fais à une créature, à un être vivant. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a des lois comme ça qui existent. Bien que les animaux ne soient pas... soient pas des êtres humains. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec un animal. Vous voyez la torture vis-à-vis des animaux, par exemple. Ça existe parce que c'est pas bien. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Vous voyez ? Revenons sur le cas de cette jeune fille. Est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter et parler de l'inceste ? Oui, l'avortement. Oui. On en discutera. Mais toute la question de l'inceste, je suis en train de jeter mes notes à la poubelle parce que la passion est en train d'arriver, mais la question de l'inceste et des abus dans les familles, est-ce qu'on peut en parler ? Pourquoi personne ne veut parler de ça ? Pourquoi personne ne veut parler de ça ? C'est un problème très grave et qui touche un adulte sur quatre a été affecté par ça. On ne veut pas en parler, mais ce qu'on veut faire, c'est tuer des bébés. Ok, je passe au deuxième point. C'est cette histoire de Roe versus Wade, c'est une question juridique et pénale. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment par du juridique et du pénal, parce que c'est une question foncièrement de juridique, une question juridique et pénale. Est-ce qu'il est légal de tuer un bébé? Est-ce qu'on devrait être puni pour avoir tué un bébé? Notamment, est-ce que la personne qui a performé l'avortement, le docteur, doit être puni par la loi? Aller en prison, payer de l'argent, je ne sais pas quoi. Et est-ce que la mère qui a subi l'avortement doit être punie par la loi? C'est une question juridique et pénale. Ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas une question de convenance. Est-ce que c'est quelque chose de convenable? Est-ce que c'est quelque chose d'opportun? Ce n'est pas une question d'opportunité. Ce n'est pas une question de moralité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Non. Je parle dans la manière dont les choses sont posées maintenant, hein, dans le droit positif. C'est une question juridique et une question pénale. Je pense personnellement que on a trop été dans le juridique et dans le pénal. Mais soit dit en passant, par rapport au docteur, moi je pense que ça ne devrait pas être des docteurs qui font des avortements. Je crois que ça devrait être une profession des avorteurs. Parce qu'un docteur, c'est censé quelqu'un qui apporte, c'est quelqu'un qui est censé être, apporter la vie. C'est quelqu'un qui a fait un serment de protéger la vie. C'est quelqu'un qui a fait un serment de protéger nos vies. On devrait pouvoir compter sur les docteurs. Et se dire que les docteurs sont en train de tuer des bébés, je ne sais pas, ce n'est pas normal. Une solution que je propose, créer une nouvelle profession, des avorteurs. Des gens, leur seul travail, ce sera de tuer des bébés. De sorte qu'on puisse continuer à faire confiance aux docteurs. Que les docteurs ne soient pas là en train de tuer les bébés et vendre leurs organes. Parce que oui, ça se fait. On vend les organes des bébés. En Amérique, il y a une vidéo qui était sortie il n'y a pas longtemps où on voyait les gens du Planned Parenthood, c'est cette grande organisation qui gère tout ce qui est avortement, en train de négocier la vente d'organes, en train d'observer sur un fœtus arraché les organes qui étaient encore préservés pour la vente. Je pense que ça ne devrait pas être fait par des docteurs. Si un docteur décide de commencer à faire des avortements, on devrait lui retirer son statut de docteur. Il devrait devenir un avorteur. Ça devrait devenir un tueur. Profession respectable. Et je pense aussi que, comme dans l'Ancien Régime, vous voyez les bourreaux qui tuaient les gens? On ne connaissait pas leur identité. Ils étaient masqués. Je pense que les avorteurs devraient être masqués. On ne devrait pas avoir leur identité. On devrait les protéger. Ouais. Ils devraient être réglementés, mandatés par l'État, assermentés. En fait, ce podcast, une grosse partie de ce podcast, c'est pas le pasteur qui est en train de parler, c'est le criminologue. Vous voulez discuter sérieusement de ça? Discutons sérieusement de ça. Là, pour l'instant, je laisse un peu Jésus de côté. Je parle rationnellement. Bon, selon mes sentiments. Et je pense qu'aussi, ils devraient être payés par l'État, ces avorteurs. Et je pense qu'on devrait condamner les docteurs qui font payer des femmes pour les avorter. Vous voulez tuer des bébés? Ok. Tuons les bébés gratuitement. Que personne ne se fasse de l'argent parce qu'il encourage les gens à tuer les bébés. Que personne ne fasse de l'argent parce qu'il est en train de tuer des bébés. Non, personne. Vous serez des fonctionnaires de l'État, financés par l'État, avec un salaire comme des profs. Et vous ne serez plus des docteurs. Vous ne pourrez plus jamais soigner quelqu'un. Plus jamais. Seulement tuer. Vous voulez tuer, tuer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une idée intéressante, non? Mais jusqu'à présent, ça reste une question juridique et pénale. Un de mes profs de criminologie, M. Philippe Marie, sa thèse, son gros livre de 900 pages qu'il nous faisait lire au début de ses études en criminologie, c'était la pénalisation du social. Que de plus en plus, la société actuelle va vers une pénalisation de questions qui devraient être réglées socialement. Un bébé qui doit naître, il y a un problème qui se présente dans la famille, c'est une question sociale. C'est une question médicale aussi. Mais on veut en faire quelque chose de pénal. Bien entendu, oui, même le domaine médical, même le domaine social, il y a le droit et le droit pénal qui entourent ces domaines. Mais là, on veut dire... En fait, ce qui se passe de plus en plus, c'est que directement, c'est ouais, prison, pas prison. Directement, est-ce que c'est un gentil, c'est un méchant ? Non, non, discutons, en fait. Aidons les gens. Discutons avec les gens. Discutons avec ces jeunes filles qui veulent commettre cet acte. Essayons de voir ce qui se passe dans la société. Non seulement il y a une pénalisation des questions sociales, mais en plus, à la base, la prison, quand les codes pénaux modernes ont été créés, la prison, c'était l'ultima ratio. La raison ultime, c'était la peine ultime. Ce n'était pas la base. C'était ce qu'on faisait quand tout avait échoué, tout avait raté. OK, prison. Maintenant, c'est tu veux prison. Est-ce que tu dois aller en prison ou pas en prison ? Oui, enlevons tout ça de la table. Enlevons ça de la table. Est-ce qu'une jeune fille de 16 ans qui prend la décision de tuer son bébé doit aller en prison ? Parfois oui. Hein. Parfois oui, mais voilà. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a le criminologue et le pasteur qui sont en train de se disputer dans ma tête. Mais discutons avec elle. Prenons soin d'elle. Posons-nous aussi la question, qu'est-ce que nous, en tant que société, on a foiré pour qu'on en soit arrivé là ? Parce qu'il y a aussi la question de... Effectivement, et ça, c'est très important. Ce qui se passait avant, c'est que vous alliez voir des individus qui allaient vous faire avorter dans des arrières cours, dans des endroits sales et... Ça allait créer de l'insécurité, des maladies, et de la souffrance. Enfin, voilà. Et par rapport à ces questions, en tant que criminologue, avant de passer à la sanction, avant de passer aux peines, avant de passer aux punitions, la première chose, c'est de la prévention. La prévention. Et par rapport à ça, je tiens quand même à féliciter certaines choses qui ont été faites dans un pays tel que la Belgique, avec tout ce qui est, comment ça s'appelle ? Contraceptif. On met ça en avant et c'est facilement accessible. Faisons de la prévention par rapport au contraceptif. Et ça, bizarrement, je trouve que enfin, peut-être parce que je suis plus vieux, je suis plus à l'école, etc. Mais je trouve que ces 20 dernières années, on n'en parle plus. Quand moi j'étais ado, il y avait beaucoup de trucs sur les condoms, des trucs comme ça, des pubs à la télé, des spectacles, on en parlait au journal, etc. Mais parlons-en. Il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire. Prévention primaire, c'est agir sur les causes longtemps avant que la chose se passe. Ça, c'est un truc où, par rapport à l'avortement, je donnerais un 1 sur 10 à la société actuelle. 1 sur 10. Gérer les questions de pédophilie. Gérer les questions de viol. Ne pas encourager les gens à avoir une vie... à vivre dans la débauche. Ah oui, tu peux avoir des relations avec qui tu veux et au cas où ça ne va pas, tu peux tuer le bébé. C'est ça le message qu'on donne actuellement. Prévention primaire. Et là, je parle aux chrétiens. Je pense que nous, c'est sur la prévention primaire qu'on devrait fort jouer, si on veut influencer la société. Prévention primaire. L'éducation sexuelle, j'ai dit que je donnais quand même des bons points par rapport à ça. Il y a une éducation sexuelle, mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a jamais eu d'éducation relationnelle. Alors voilà comment le sexe se passe, voilà. Mais expliquez aux gens c'est quoi une rupture, expliquez aux ados c'est quoi une rupture, c'est quoi un couple. Expliquez aux ados c'est quoi un enfant, c'est quoi une vie. Expliquer aux ados, c'est quoi une amitié ? Expliquer aux ados, c'est quoi la prostitution ? Maintenant, il faudrait qu'on explique aux ados, c'est quoi les influenceurs et tout ça. Vous voyez ? Une éducation profonde. Et ça, par exemple, nous chrétiens, dans les églises, on a les moyens de le faire, mais on ne le fait pas assez. Si je donne 1 sur 10 à la société, je donne peut-être 3 sur 10 aux églises. Éduquons. Je vous assure que moi, le jour où il y a une ado de 13 ans qui m'a dit « Ouais, avec nos amis, on a été accompagner notre ami se faire avorter. » 13 ans ? 13 ans ? À 13 ans, je jouais au POG. Non, c'est pas vrai. Mais quand même, vous voyez, il y a quelque chose de... C'est pas normal, come on. Qui doit aller en prison ? Toutes les Netflix et tout qui promeuvent la débauche. Hein ? Mettons-les en prison. Tu viens sur la voie publique, que ce soit à la télé, sur Internet, etc. Tu publies des choses qui encouragent la jeunesse à la débauche. Prison. J'exagère parce que je sais qu'il y a aussi toute la question de censure et c'est encore un autre combat pour la liberté d'expression, etc. Mais je pense quand même qu'il y a certains messages... Enfin, oui, qu'il y a certains messages qui devraient être interdits publiquement. Regardez, si aujourd'hui, je viens dire « Oui, j'ai une préférence pour les enfants. » Ok. Certains vont dire « Oui, c'est sa préférence personnelle, etc. » Et je viens dire « Écoutez, à partir du moment où les enfants sont mineurs et ils n'ont pas le... Comment on appelle ça ? Le discernement et ils peuvent pas donner leur engagement. Il y a un terme que je cherche, mais j'ai oublié. Je trouve qu'on devrait pouvoir avoir des relations sexuelles avec tous les enfants qu'on veut. Je trouve que un adulte pourrait se balader dans la rue, prendre un enfant dans sa camionnette et avoir des relations sexuelles avec lui. Voilà. Et je viens à la télé, je dis ça. Et je paye des pubs à la télé pour passer dire ça. Je finance une série télé qui va passer sur Netflix, qui va faire passer ce message. Est-ce que je mérite d'aller en prison ? Oui ! Liberté d'expression, certes. Mais il y a des gens qui doivent aller en prison. Il y a certains messages qui ne sont pas acceptables. Et les gens qui viennent dire, par exemple, tous les gens qui veulent financer des messages, qui veulent publier des messages publiquement pour encourager les gens à vivre une vie n'importe comment et donner comme solution l'avortement, de tuer les bébés, ces gens-là doivent aller en prison. Pense ce que tu veux dans ton privé. Je pense qu'on a tous des idées. Si on en parlait publiquement, ce serait chaud. Mais ne viens pas devant nous pour faire tout ça. Qui d'autre doit aller en prison ? Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez que la plupart des compagnies, comment ça s'appelle ? Les sites porno, ils appartiennent à la même société. Attendez, je vais vite faire rechercher le nom, comme ça je vais vous dire ça. J'ai trouvé, il s'appelle MindGeek. MindGeek. Ils ont plein de sociétés de pornographie. Apparemment, la plupart des plus gros sites de porno, c'est à eux. Des gens comme eux ? Prison ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Prévention primaire. On empêche... En plus, le nom de la société même est Evil Mind Geek. Donc vous êtes des... Non, vous êtes des tordus. Des gens comme eux, prison. On dissout cette société. I don't know, je sais que... C'est même... Ce qui est énervant, c'est que même mes solutions sont très gamines. À part l'histoire sur les docteurs, là, c'est très sensé. Mais... Des gens qui veulent promouvoir... une mentalité pornographique, parce que c'est vraiment mind, tu vois, leur objectif c'est toucher l'esprit. Et ça encourage les jeunes garçons à faire n'importe quoi, les jeunes filles à faire n'importe quoi. Et après nous on se dit, quand les gens font n'importe quoi, tuons les bébés, ouais. Ah, Seigneur. La prévention primaire. Les chrétiens, on doit faire beaucoup plus d'efforts là-dessus, la prévention primaire. Le truc, c'est que, vous voyez, en criminologie aussi, on a compris que personne ne veut faire de prévention primaire. Pourquoi ? Parce que la prévention primaire, c'est pas cool, c'est pas sexy. Tu dis aux gens, voilà, on va faire ça, et puis dans 20 ans, on aura des résultats. Personne ne veut faire ça. Aucun politicien veut faire ça parce qu'ils veulent des résultats maintenant pour être élus. Peu de pasteurs ont une vision sur 20 ans. Peu de parents ont une vision sur 20 ans. On voit les choses maintenant. Oui, on va interdire, on va forcer. Et un autre type de prévention qui nous intéresse, c'est la prévention situationnelle. Et ça, c'est... La prévention situationnelle, c'était très à la mode il y a quelques années. On en parlait beaucoup aux infos. Et en criminaux aussi, on en parle beaucoup. La prévention situationnelle, c'est agir sur les conditions, sur les éléments présents pour empêcher que le crime soit fait, pour dissuader le crime d'être fait. Quand on rend l'avortement illégal, c'est de la prévention situationnelle. Enfin, prévention légale, situationnelle. On agit sur le présent. Et là, en fait, on ne change pas les mentalités, on ne change pas les cœurs. On ne change pas vraiment les comportements. On pousse juste les gens à faire ça dans le secret. Et on pousse juste les gens à aller de plus en plus loin dans les ténèbres. Quand tu rends la drogue illégale, par exemple, tu encourages les gens à aller chez des dealers qui sont illégaux, des criminels, et tu les fais entrer, en fait, dans la criminalité. Et tu détruis les familles, et tu déconstruis la société. La prévention situationnelle, c'est très dangereux, mais c'est très attirant. Et nous, chrétiens, on doit faire très attention à ça. Nous qui sommes du domaine spirituel, on doit faire attention à ça, parce que la prévention situationnelle, c'est vraiment mettre un pansement sur un cancer. Ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça ne change pas les cœurs, ça ne change pas les comportements, ça ne change pas les idées. Et ça crée des conflits dans la société. Parce que tu interdis aux gens de faire quelque chose, eux, ils vont se radicaliser. Et c'est ce qui se passe maintenant avec l'avortement. Quand vous écoutez les les gens qui se disent pro-choice, j'aime pas ces trucs de pro-choice, pro-life, je trouve que c'est très, très bête. Les gens qui sont pro-avortement, pro-meurtre de bébé, ils sont radicalisés. Ils ont maintenant des arguments vraiment dingos parce qu'on les a poussés dans un coin. Et on les a marginalisés, on les a criminalisés. Alors, il faut faire attention à ça. On a besoin de plus de discussions, plus d'empathie. Ce n'est pas une question facile. N'abordons jamais ça comme une question facile. Bien que je sens vraiment que les personnes qui doivent faire des avortements difficiles, des choix difficiles, genre parce que les personnes qui ont été violées ou bien des personnes qui ont des enfants, on t'annonce que ton enfant va être fortement handicapé, difficilement viable, ou bien encore un cas qui est essentiel, hein. Là, c'est vraiment un cas. Pour moi, c'est peut-être le cas le plus essentiel. C'est quand tu as le choix entre sauver la mère et sauver le bébé. Quelqu'un doit mourir. On a besoin de discuter. Et certainement, on ne sera pas tous d'accord. On a besoin de discuter. Et parmi les gens aussi qui doivent aller en prison, vraiment, les gens qui veulent déshumaniser les bébés, hein. Oh non, c'est juste un tas de chair. Prison. Encore une fois, tu peux penser ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Parce que certains pensent que nous-mêmes, les humains, on n'est qu'un tas de chair, on n'est qu'un tas de cellules. Hein. Ils ont le droit de penser ça. Mais quelqu'un qui veut essayer de publier, encore une fois, payer de l'argent pour financer des fausses recherches, financer des faux films, des documentaires, soi-disant, ou bien des séries dans lesquelles on met cette philosophie, on essaie de déshumaniser des bébés. Parce qu'au final, si un fœtus... Attention, si vous voulez pas être dégoûté, faites un saut d'une minute. Je vous ai prévenu, hein, j'y vais. Si un fœtus n'est pas humain, si c'est pas vivant, qu'est-ce qui empêche d'avoir des relations sexuelles avec? Parce qu'il y a bien des gens qui ont des relations sexuelles avec des bébés d'un an, deux ans. Si c'est pas humain, qu'est-ce qui empêche alors? Ok, c'est fini, vous pouvez vous reconnecter. Je vous ai dit, si on veut plonger dans les ténèbres, plongeons dans les ténèbres. Je suis un criminologue. Et parfois, vous êtes là, vous défendez des choses, vous ne savez même pas qu'il y a des gens qui sont dans des bails sombres. Sombres. Et les tréfonds de l'humanité. Et regardez, lisez la Bible. Hein. Je vous en ai parlé dans mon premier podcast sur le LGBT, le deuxième. Des gens qui sont dans des bails sombres. Et qui veulent entraîner l'humanité avec eux dans les ténèbres. Comme a très bien dit Alfred, joué par le brillant Michael Caine dans le film The Dark Knight, lorsqu'il parlait d'un homme qu'il avait rencontré dans la jungle et il décrivait en fait le Joker. « Some people just want to see the world burn. Some people just want to see the world burn. » Il y a des gens qui veulent seulement voir le monde brûler. Ils sont dans les ténèbres et ils veulent que tout le monde aille avec eux dans les ténèbres. Les incestueux, là. Prison. Prison, 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 prison. Les politiciens qui veulent encourager certaines politiques de tolérance, de la pédophilie, des abus sexuels, de l'inceste, tout ça. Prison. Prison, 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 prison. Je réagis comme un gamin, je suis désolé. Je parlais des tréfonds de l'humanité. Vous savez, des petites recherches que j'ai faites ces derniers mois, pas mal de penseurs, des personnes qui ont conçu beaucoup de choses qu'on pense maintenant sur la sexualité, sur la psychologie, sur les genres, quand tu regardes la personne qui est à la base, c'était des monstres. Des monstres. Et on a pris leur pensée, leur philosophie, et on les a gardés, alors que c'est des gens qui devraient être en prison. On aurait dû prendre tous leurs papiers, toutes leurs recherches et les brûler. Aux États-Unis, par exemple, je vous ai parlé de Planned Parenthood, qui est cette association qui promeut l'avortement. Mais la fondatrice de Planned Parenthood, une certaine Margaret Sanger, mais c'est une, ça a été fondé en 1916, hein. C'est une eugéniste. Je vous parlais tout à l'heure d'eugénie. Ces gens qui veulent décider qui peut vivre, qui ne peut pas vivre, qui peut se reproduire, qui ne peut pas se reproduire. C'était une eugéniste. Elle pensait que par l'avortement, on allait empêcher les dégénérés de se reproduire. Et une des populations qu'elle visait, c'était les Noirs. À l'heure actuelle, les centres de Planned Parenthood sont souvent implantés dans les quartiers des Noirs. Et récemment, plusieurs années d'affilée, quand les chiffres sortent, écoutez ça, quasiment 40% des avortements aux États-Unis sont faits par des femmes noires. Alors que les Noirs sont 10% de la population. 40% des avortements sont faits par les femmes noires. C'est des femmes noires qui avortent, alors que les Noirs font 10% de la population. Parce que la fondatrice était une eugéniste qui voulait se débarrasser des Noirs. Et nous, on est là, on soutient un mouvement qui est maléfique. Maléfique, un génocide noir. On est dans une société qui a décidé de faire payer les bébés pour nos propres crimes à nous, les adultes. Les tréfonds, les bas-fonds de l'humanité. Allez y faire un tour, faites des recherches sur Internet. Allez-y! Cherchez l'origine des choses. Regardez les choses que les gens font. Récemment, il y a eu cette histoire de... Excusez-moi encore une fois, si vous ne voulez pas être dégoûté, faites un saut de 2 minutes en avant dans le podcast. Cette histoire de cette influenceuse qui a sorti cette vidéo et qui a parlé du fait qu'elle était engagée par des milliardaires à Dubaï pour manger leurs excréments, manger des excréments d'animaux, etc. Tout le monde a été choqué. Mais... je ne sais pas si vous réalisez que là, on en parle seulement parce que c'est une influenceuse et que ce sont des milliardaires. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand vous allez dans les tréfonds de l'humanité, la prostitution de bas étage, dans les endroits sombres, vous croyez qu'il se passe quoi? L'esclavage moderne. Vous voyez, lors de la dernière crise des migrants en Europe, il y a un article sur lequel je reviens sans cesse, qui dit que 10 000 enfants sont entrés en Europe, parce que quand les migrants entrent dans les frontières de l'Europe, on les tag, on leur donne quelque chose, on les notifie, allez, on note quelque chose. Et je sais, par exemple, en Belgique, même les sans-papiers, ils ont un numéro de registre national, ok? Et parmi tous ces gens qui sont entrés en Europe, il y a 10 000 enfants qui sont entrés en Europe et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. 10 000 enfants portés disparus et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. La réalité, c'est qu'on sait très bien ce qu'ils sont devenus. Ils sont dans les réseaux de pédophilie, ils sont dans les réseaux d'esclavage moderne, ils sont dans les réseaux de prostitution. Des trucs privés dont personne n'entendra jamais parler. Certains vont rester prisonniers toute leur vie. Des choses sombres, mais ça n'intéresse personne. Entrons dans les tréfonds de l'humanité. C'est les choses qui se passent. Ce qui se passe là-bas en Thaïlande, par exemple. Les choses que les gens vont faire en Thaïlande. Les tréfonds de l'humanité. Et j'en viens sur les chrétiens maintenant. Quel est le rôle des chrétiens dans la société? Est-ce que nous, chrétiens, nous devons désirer de créer une société à notre image? Est-ce que ça doit être notre désir que cette société ici soit la société qu'on veut qu'elle soit? Je dirais, guys, le roi revient pour fonder son royaume. Jésus revient et il nous promet qu'à ce moment-là, il y aura un règne de justice et de paix. Et que là, ici, maintenant, non! Non! le prince de ce monde, c'est le diable. Et on ne doit pas s'étonner que la société soit diabolique. Et essayer de s'impliquer trop fort dans les rouages de cette société pour la modifier et la rendre à notre image, et pas à l'image de Christ, hein, à notre image. Attention, pas à l'image de Christ, notre image. Et c'est là tout le rôle des évangéliques, evangelicals. Les chrétiens, c'est le lobby de chrétiens américains dont je fais un podcast là-dessus. J'y pense depuis des mois maintenant et je vais en parler parce que c'est... Hein, c'est sombre. On essaie de se rendre puissant. L'Église devient Babel. L'Église, on devient comme les constructeurs de la tour de Babel. On veut toucher le ciel de par nous-mêmes, alors que le ciel est déjà descendu jusqu'à nous par Jésus, et le ciel va encore revenir jusqu'à nous. Écoutez ces quelques textes. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On n'est pas de ce monde, les amis. On n'est pas dans notre monde. Le monde nous hait, c'est normal. Mais on est censé être la lumière du monde. On doit les éclairer. Pas les attaquer. Pas les insulter, pas les humilier, pas les écraser. On doit les éclairer. Lorsqu'on vient avec des panneaux et qu'on manifeste avec violence, etc., est-ce qu'on est en train d'éclairer le monde? Je pense qu'il y a aussi une place pour ça, hein, les manifestations, etc. Je crois qu'il y a une place pour ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser les outils du monde pour essayer de régner sur le monde. Au lieu d'utiliser les outils de Christ, de l'Esprit, pour affecter ce monde dont on ne provient pas, ce n'est pas notre société. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La soumission aux autorités. Nous, les chrétiens, nous devons être soumis aux autorités. Je parlais de processus démocratique. Nous devons respecter le processus démocratique, pas tricher dans le processus démocratique. Et accepter aussi que si le Seigneur permet que certains leaders soient en place, c'est vraiment lui qui le permet. C'est Dieu qui permet ces choses. Respecter les autorités. Pas les combattre, pas les insulter, pas les humilier. 1 Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Où est la prière? Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Où est la prière? Église, où est la prière? Insulter les gens, se disputer avec les gens sur les réseaux, se disputer avec les gens dans le domaine politique. Où est la prière? Prions pour les autorités, prions pour ce monde, prions pour nos villes, prions pour cette société. Où est la prière? On veut vivre en paix, prions. On a cette arme qui agit dans le monde spirituel qui est bien plus impactful, j'allais dire, qui est bien plus puissante. Bien plus pesant que le monde physique. Écoutez ça, Proverbes chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Frères et sœurs, si on veut affecter les cœurs des rois, des dirigeants, comptons sur Dieu, prions, parlons à Dieu. Comme Esther, la reine qui a jeûné 3 jours avec tout son peuple pour que le roi change, et il l'a fait. Où sont les intercesseurs? Où est la prière? Où sont les chrétiens? Où est l'Église? 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voulons que Dieu vienne guérir nos pays des abominations qui ont été commises. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Prier et rechercher la face de Dieu, nous détourner de nos mauvaises voies. Église, avant de condamner le monde, condamne ce qui se passe dans tes rangs. Condamne ce qui se passe dans tes rangs, Église. L'hypocrisie. Les pasteurs qui abusent des gens à tous les niveaux. Les incestes dans les familles chrétiennes, les abus dans les familles chrétiennes. Église, revenons au Seigneur, prions, prions. Et Dieu guérira le pays. Regardez, Exode chapitre 23, 25, 26, le dernier texte pour aujourd'hui. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez, lorsqu'on sert l'Éternel et que le pays est béni, il n'y a plus de femmes stériles, plus de femmes qui avortent. Vous voyez, ce sont des malédictions qui sont sur le pays. C'est spirituel. C'est pas la loi qui va changer ça, c'est l'esprit de Dieu, un esprit de supplication, d'amour et de vie qui va toucher la société. Servons Dieu, prions Dieu. Oh Seigneur, viens guérir nos pays. Guéris ce monde. Messie, nous t'attendons. Jésus, nous t'attendons. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Alléluia. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était un peu difficile à écouter, je pense. N'hésitez pas à commenter. Sur YouTube, vous pouvez me faire des commentaires. Sur Twitter, commenter. Je veux voir ce que vous pensez de ça. Si vous trouvez que ce que j'ai dit est stupide, dites-moi à quel point c'est stupide. Ça me fera plaisir aussi. Et si vous trouvez que c'est intelligent et que ça a du sens, parlons. Parlons. Donnez aussi votre insight. Ce que vous savez en plus sur la question, partagez-le. Abonnez-vous au podcast. Partagez-le. Mettez quelques étoiles sur Apple Podcasts. Soyez bénis. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Merci de me tolérer. Merci pour le soutien. Merci d'aimer ce que je fais. Soyez tous bénis. Vraiment, 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 vraiment. Allez, bonne journée à tous. C'était le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur.